Bonjour Raymond Richard au micro et nous nous retrouvons avec Michel Borges-Monory pour notre émission Bienvenue en Europe. Voilà, bienvenue en Europe donc,
chers Bonjour, auditeurs. Bonjour, chers auditeurs.
Voilà. Alors, depuis notre dernière émission, bien, il y a eu l'actualité a changé un peu. Le Brexit ne va plus nous tenir trop en haleine, encore que. Il y a des négociations.
Eh bien, il y a eu au mois de février, chaque parti, c'est-à-dire l'Union européenne d'un côté, avec Michel Barnier, qui est son représentant au niveau des négociations, et du côté du Royaume-Uni, leur représentant,
David Frost,
qui ont présenté leur... ce vers quoi ils étaient prêts à s'engager. Et alors, les discussions ont débuté début mars, mais d'après les analyses,
c'est dur,
et il y a très très peu de temps pour parvenir à un accord. Grosso modo, je synthétise, du côté britannique, on voudrait avoir toute une série de petits accords au cas par cas, selon les secteurs. Du côté européen, on voudrait un accord global de libre-échange. Étant entendu que dans cet accord, si on veut qu'il y ait libre-échange et accès aux Britanniques au marché intérieur, ben, il faut qu'ils respectent les règles du marché intérieur. Or, justement, c'est ce que ne veulent pas les Britanniques. Donc, on en est là.
Négociations
ont débuté. Rappelons simplement qu'il faut un accord absolument avant le 31 décembre de cette année 2020. Alors on verra. Et l'un des grands points actuellement, c'est la politique de la pêche qui pose vraiment de très grands problèmes. Alors on aura l'occasion certainement d'y revenir. Mais donc c'est un dossier, encore une fois, qui est reparti pour un tour, comme on dit. Dans le cadre au niveau
financier,
parce qu'il y a eu également un Conseil européen qui s'est tenu fin février, qui devait essayer de mettre d'accord, parce qu'il faut l'unanimité des États membres, sur le budget pluriannuel de l'Union européenne. C'est le budget qui couvre la période 2021-2027. C'est une particularité un peu spéciale de l'Union européenne qui fait que il y a tous les 5 ans un renouvellement du personnel des parlementaires, de la Commission européenne au niveau institutionnel. Mais une fois que la nouvelle Commission, comme un gouvernement, prend ses fonctions, elle, évidemment, met sur la table un programme de travail avec des financements qui doivent aller de pair pour pouvoir précisément exécuter ce programme et le proposer aux deux instances qui doivent donner leur accord, à savoir les États, donc à travers le Conseil, et le Parlement européen qui, lui, a le dernier mot dans l'affaire. Donc s'il n'y a pas d'accord du Parlement, il n'y a pas de budget. Ou on garde le budget antérieur. Or là, sur la période pluriannuelle, eh bien, ça ne correspond pas. C'était la commission précédente, Juncker, qui a proposé ce budget, avec des coupes assez fortes dans la politique agricole commune. Mais pas qu'à ce niveau-là, mais à d'autres niveaux aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des États, notamment 4, qui se sont appelés eux-mêmes les 4 radins. Ils voulaient sans doute faire un peu d'humour à l'occasion. Mais en tout cas, ce n'est pas tellement très drôle, parce qu'ils ont bloqué toute possibilité d'accord sur ce budget, parce qu'eux, ils ne veulent absolument pas toucher à ce qu'ils donnent actuellement au niveau européen. Or, on est obligé. Et alors, ces 4-là, ce sont les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Or, il faut l'unanimité. Il y a les Britanniques qui sont partis, et donc, il y a un trou dans le budget par rapport à la contribution britannique.
Bon, évidemment, on
leur donne plus d'argent non plus, donc ça compense. Mais néanmoins, il y a quand même une...
Ils étaient un peu plus,
pas trop, mais beaucoup. Mais il y a, par rapport au programme également qui est mis sur la table, comme je disais tout à l'heure, par Mme von der Leyen, nouvelle commission, notamment avec son Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert, et puis tout ce qui va avec, et pas que, il y a toute une série de priorités qui sont données dans ce nouveau programme, notamment pour transformer l'industrie, le numérique, etc. Donc il y a beaucoup de priorités qui ont été mises sur la table, Et évidemment, il faut un budget spécial pour cela. Or, le budget actuellement est quasiment identique depuis des dizaines d'années, à savoir que les États refusent de dépasser quasiment, ou de quelques virgules, le 1% du produit intérieur brut européen, national. Et là, on est bloqué. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver un accord à l'unanimité des États pour aller plus loin? Or, ça joue sur la politique agricole commune. Et la politique agricole commune, ben, on sait la position de la France, qui est le premier bénéficiaire de cette politique, compte tenu de la place de,
ben, son agriculture
en Europe. Et donc, il dit non, on ne peut pas couper là-dedans. Alors, ceci étant, il va y avoir des réajustements. On va voir. Une des solutions serait, et la plus simple, ce serait d'en revenir à ce qui était prévu au départ dans les traités, à savoir des fonds propres européens, c'est-à-dire des impôts, des prélèvements qui seraient prélevés directement au niveau européen et qui ne passeraient pas par les États membres. C'est le principe de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, dont une partie est redistribuée, remise au niveau européen. Mais, par exemple, on a réfléchi à mettre une taxe sur les GAFA, etc. Donc, on peut toujours imaginer quelque chose. Mais le problème, c'est qu'on retombe toujours sur le même problème. Il faut l'unanimité des États membres. Et les États, bah,
c'est eux qui bloquent. Donc, ça veut dire que l'Europe se bloque elle-même. Voilà.
Donc, c'est une affaire à suivre. Et là aussi, il faut absolument arriver, à la fin de l'année, à un accord. Parce qu'après, ça sera trop tard. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, ce sera le même budget qu'antérieurement. Mais c'est-à-dire les fonds resteront inchangés. Ça veut dire aussi que comment est-ce qu'on va financer les attentes actuelles? On pense par exemple à la crise des migrants à l'heure actuelle, à la frontière gréco-turque, etc., où il y a déjà de l'argent qui a été mis pour pallier au plus pressé, pour parer au plus pressé, mais, et ainsi de suite. Mais là, on va être très certainement dans un grand nombre de difficultés. Donc voilà ce qu'on pouvait dire.
Rappelons quand même que sur le plan du budget, par exemple, en ce qui concerne la politique agricole commune, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui est tout à fait en l'air. Et je vois, par exemple, dans le cadre de la politique agricole commune, eh bien, ça nous intéresse aussi, nous, concrètement. Alors, par exemple, je cite un exemple, hein, il y a des AMAP, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui se sont regroupées en Seine-et-Marne et qui bénéficient de fonds européens pour leur cantine scolaire. C'est-à-dire que ce verdissement dont on parle, c'est pas simplement en l'air. Il y a, donc je vois par exemple, c'est la commune de Orvanne et Moret-sur-Ouin, donc vous pouvez aller voir, hein, modèle des AMAP pour établir des relations directes entre les cantines scolaires, la manière dont sont alimentés les enfants, et puis les agriculteurs. Même chose pour, mais là on ne va pas reprendre un exemple aussi concret, mais quand même, à Rennes, une ferme qui veut produire du lait bio, eh bien elle a une aide du Fonds européen. Donc il y a, je crois qu'il faut sentir que l'Europe, elle n'est pas simplement à Bruxelles, mais elle est dans notre environnement et elle est dans les choses les plus concrètes, comme une cantine ou bien une ferme de votre environnement. Alors, on a dit aussi que nous sommes le lendemain de la journée de la femme, donc il y a peut-être des choses à dire sur les femmes.
Oui, au niveau, c'était exactement le 8 mars.
Donc hier,
par rapport à notre enregistrement d'aujourd'hui, c'était la journée de la femme. C'est ce que l'on oublie de dire, c'est que là aussi, la place de l'Europe et de ce que fait l'Europe dans ce cadre-là. Et l'Europe est vraiment présente. L'Union européenne, elle a déjà pris de très nombreuses initiatives pour le respect de l'égalité homme-femme.
Oui, parce que ça paraît acquis par ici, mais ce n'est pas acquis dans tous les pays.
Notamment
les pays d'Europe de l'Est.
Mais il y a, au niveau des traités, que les pays de l'Union européenne, de toute façon, doivent appliquer ce qui a été décidé au niveau des traités et des directives européennes. C'est le droit. Donc, simplement, on peut rappeler que déjà, dès le traité de Rome, il y a eu cette mention de l'égalité entre les femmes et les hommes qui devait être respectée. Ça faisait partie de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, etc. À la suite du traité de Rome, il y a eu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne il y a quelques années, où il y a eu également le principe de salaire égal pour travail égal. Et que l'on
la moindre des choses.
La moindre des choses, mais qu'il n'y ait pas une discrimination fondée sur le sexe. Ensuite, a été développé au cours des ans des moyens de recours pour justement défendre cette égalité homme-femme et pour faire en sorte que l'application du principe de l'égalité soit absolument respectée. Au niveau du... Alors, je ne rentre pas dans tous les arrêts, la jurisprudence, au niveau qui a confirmé cette égalité, mais je voudrais encore rajouter juste une petite chose ou deux, c'est qu'au Parlement européen, donc qui est démocratiquement élu, il y a une commission spéciale qui est précisément, qui s'appelle Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Et que cette commission, elle fait partie des 22 commissions permanentes du Parlement européen. Et cette commission ne cesse justement de mettre le doigt sur tout ce qui ne va pas pour, dans ce domaine-là. Rappelons également, là j'en termine avec cela, que le Parlement européen lui-même, lors des dernières élections, il y a quand même 39% de femmes. La Suède et la Finlande dépassent même les 50% de femmes parmi leurs députés. Et rappelons enfin que la Commission européenne elle-même est présidée pour la première fois par une femme, Madame von der Leyen, et que elle se compose de 12 femmes et 15 hommes.
Oui, bon, voilà,
mais c'est quand même la première fois qu'il y a cet élément aussi important.
Alors,
La Commission a même dévoilé une nouvelle, justement en début de mars, une nouvelle stratégie quinquennale qu'elle prévoit en faveur de l'égalité homme-femme. Donc il y aura on verra dans l'application de tout ce qui sera proposé dans le cadre de ce programme. Donc l'Europe, là aussi, fait quelque chose.
Alors quand on dit l'Europe fait quelque chose, ça veut dire que souvent la Commission propose des choses, les lois sont votées. Alors quand les lois sont votées, il faut aussi qu'elles passent par le filtre de chaque État. Et alors, entre autres, il y a eu une directive qui proposait que dans la direction des entreprises du CAC 40, il y ait plus de femmes. Mais cette directive, bon alors peut-être elle serait difficile à appliquer, mais en attendant, elle a été refusée. Et c'est intéressant de voir que la Commission propose une ouverture et que ce sont les États qui l'ont refusée.
Appliquer, parce que quand il y a une directive qui a été décidée, ils doivent l'appliquer, mais ils l'appliquent plus ou moins bien ou ils ne l'appliquent pas.
Il faut qu'elle soit votée, la directive.
Oui, évidemment. Pour clore ce chapitre-là, qui quand même paraît intéressant, c'est qu'il y a une association qui s'appelle l'Association citoyenne pour l'Europe, qui défend véritablement les réseaux de femmes, et sa présidente a souligné que c'est bien dommage que les femmes ignorent pour la plupart tout ce que l'Europe fait pour elles.
Oui,
et elle rappelle aussi, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1945, la France elle-même avait interdit le droit de vote des femmes et qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'elles puissent travailler sans l'autorisation de leur mari, leur propre compte bancaire. Je crois, dit cette présidente de cette association féministe, je crois que l'Europe a été une locomotive pour faire avancer la promotion des femmes.
Voilà, donc elle continue, c'est tout ce qu'on souhaite. Alors, il y a la promotion de la femme, on a évoqué, on a vu ce qui concernait l'Angleterre. Alors, c'est au niveau des relations internationales, j'ai trouvé intéressant, et puis après nous ferons une petite pause, qu'il y ait eu l'unanimité entre tous les États pour contrer la proposition de paix de Donald Trump, qui visait tout simplement à entériner le fait accompli, c'est-à-dire les colonies israéliennes qui existent sur les territoires palestiniens, maintenant, ça fait partie de l'État israélien. Donc là, je trouve ça intéressant. Alors, sur le contenu, c'est discutable, et puis on peut y réfléchir. Mais sur le fait que les 27 États se soient mis d'accord pour dire non à cette décision de Donald Trump, ça me paraît intéressant, puisque est-ce que l'Europe va exister sur le plan politique ? Voilà, une question qu'on peut se poser.
Il y a d'autres domaines également, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour souligner, vous faites bien de le souligner, que l'unanimité existe, ce n'est pas toujours négatif, et que les États, heureusement, européens, arrivent à se rendre compte qu'ils ont quelque chose en commun et qu'ils le défendent.
Eh bien, nous allons faire une petite pause.
J'ai parlé de New York et de Paris dans des chansons qui racontaient ma vie. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit. S'est enfui. Vous marchiez, Juliette, sur le bord de l'eau, avec la vendeuse de bagues du métro. Tout ce que j'ai dit. S'est enfui. L'hiver s'en va et on change la chanson. Tout ce que j'ai dit.
Nous sommes toujours dans l'émission Bienvenue en Europe sur Radio Grand Ciel. Et pour la deuxième partie d'émission, nous voulions évoquer un certain nombre de questions. Alors, le coronavirus dont on nous parle beaucoup, eh bien, figurez-vous, il y a aussi des députés européens qui sont, ou des fonctionnaires européens. En tout cas, il y a un peu de coronavirus dans les couloirs de Bruxelles, ce qui nous vaut... évite Strasbourg.
Oui, il y avait la session plénière du mois de mars a été... non pas annulée, mais elle s'est, du coup, elle se tient à Bruxelles, dans les locaux du Parlement européen de Bruxelles, plutôt que Strasbourg, en raison justement de ce coronavirus. Alors, on ne va pas s'étendre sur les dangers par rapport à ce coronavirus, mais ça me fait penser que les médias qui ne cessent d'en parler, bon, souvent à juste raison, mais systématiquement tous les jours, on en oublie du coup les maladies, dirons-nous, plus classiques, qui font parfois même beaucoup plus de victimes. Mais ceci étant, cela me fait...
Oui, le paludisme qui tue des millions de personnes, 1 million de personnes à peu près par an.
Ne serait-ce que les... indépendamment des grippes ou traditionnelles annuelles, il y a les accidents de la route, il y a 1000 choses dont on parle très peu. Et également au niveau des médias, puisque là actuellement ils se focalisent quasiment uniquement sur le coronavirus, mais précisément au niveau de l'Europe. Eh bien, on s'aperçoit que là aussi, il y a un déficit incroyable au niveau médiatique sur ce que fait l'Europe. Un sondage vient d'être publié par le mouvement européen français, donc pour le territoire français, et qui indique que 72% des Français souhaiteraient être mieux informés sur l'Europe. Et donc il y en a 55% qui se disent qu'ils sont vraiment mal informés. Il y a un déficit incroyable en ce qui concerne ce que fait l'Europe, parce que les médias n'en parlent quasiment pas ou très peu. Alors on a déjà évoqué...
Donc, chers auditeurs, continuez à être sur Radio Grand Ciel qui parle de l'Europe. Voilà.
Très peu savent quel est le nom de la présidente de la Commission européenne, très peu savent quel est le rôle des institutions, le rôle des États, du Parlement européen. Or, il y a... Chaque mois, précisément, on vient de l'évoquer, une session du Parlement européen qui a de très nombreux pouvoirs. C'est la démocratie et on n'en parle quasiment jamais. Or, il y a des réunions chaque mois et tous les jours, des commissions parlementaires se réunissent, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Et donc, il y a un déficit important. Il faudrait faire en sorte
Donc, dans l'actualité, parlons de l'actualité, puisque l'actualité fait que Erdogan, le président turc, fait du chantage vis-à-vis de l'Europe en disant « Eh bien, je vais ouvrir mes frontières et puis vous allez voir ce déferlement de réfugiés ». Alors, aujourd'hui même, il y a une rencontre entre M. Erdogan et la présidente, Mme Ursula von Leyen, à Bruxelles. Et en marge de cela, la décision prise par un certain nombre de pays européens d'accueillir parmi les 40 000 personnes qui sont enfermées dans l'île de Lesbos et en Grèce, se rappeler que, après tout, la Grèce est à l'intérieur de l'Union et que peut-être le fardeau des migrants n'est pas supporté par elle seule. Alors c'est vrai qu'il y a des aides financières de l'Europe pour cela, mais là, des pays ont décidé d'accueillir les enfants, 1500 enfants. Alors vous me direz, sur tous les réfugiés qu'il y a à l'île de Lesbos, mais quand même, est-ce que l'humanité se prend de réfléchir aux conditions épouvantables de la vie des gamins qui sont dans les camps à l'intérieur de la Grèce?
Ce qu'il faut quand même rajouter en ce qui concerne nos relations avec la Turquie, en particulier M. Erdogan, donc c'est un chantage, enfin on le sait, mais on peut le répéter. Alors c'est vrai qu'il y a quelques 3,5 millions de migrants provenant de Syrie, du fait de la guerre au sein du régime syrien, en Syrie, qui sont réfugiés en Turquie. Il y a un accord avec l'Europe, et l'Europe s'est engagée à payer 6 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle les garde chez elle. Monsieur Erdogan a cru bien faire pour éliminer les Kurdes qu'il n'aime pas trop, d'envahir une partie de la Syrie, contre tout droit d'ailleurs international. Et puis maintenant, il s'est aperçu qu'il y avait les Russes qui soutenaient
le régime. Que la guerre n'est jamais une bonne solution.
Il y a un retour de bâton. Et puis maintenant, il est pris au piège syrien. Il croyait pouvoir jouer un rôle à la manière de l'Empire turc d'autrefois. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne sait plus quoi faire, il voudrait maintenant que l'Europe vienne le défendre contre les Russes et en Syrie. Et alors, il n'a rien trouvé de mieux pour essayer de nous pousser à bouger, et dire « je fais partie de l'OTAN, donc venez me défendre ». Et alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris l'équivalent de 20 000 réfugiés qui étaient en Turquie, il les a fait monter dans des bus... en leur disant la frontière, on va vous amener à la frontière grecque, elle est ouverte et vous allez pouvoir passer. Et là, les Grecs en ont évidemment assez de voir ce qui se passe. Et là, il y a eu un barrage total et l'Union européenne a fait bloc derrière le gouvernement turc en disant non, on ne peut pas accepter on ne peut pas accepter ce genre de procédé. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, on va voir comment la situation va pouvoir se dégager, indépendamment évidemment des grands problèmes.
Erdogan a fait marche
arrière parce du droit d'asile, etc., qui n'est toujours pas harmonisé au plan européen. Ça, d'accord. Mais en ce qui concerne cette affaire directe, c'est véritablement là, l'Europe a fait bloc pour soutenir la Grèce.
Oui, on est positif hein, quand même. Deuxième point sur lequel l'Europe a fait bloc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Erdogan a, disons, demandé à ses gardes maintenant d'interrompre ce flux. Les pauvres Syriens qui sont ballottés d'un côté et de l'autre et qui servent de monnaie d'échange, c'est un peu dramatique de voir ça au XXIe siècle. Alors, parlons des choses qui sont positives, parce que justement, l'Europe essaie d'avancer sur le plan de l'humanité. Vous savez que lorsqu'il s'agissait d'intégrer un nouvel État dans l'Union européenne, il fallait qu'il soit démocratique, qu'il observe les droits de l'homme, etc. Alors, il y a aussi des possibilités d'avancer sur le plan européen, et notamment avec l'opération Label Ville Européenne. Alors racontez-nous un peu ce que c'est ce Label Ville Européenne, parce que ça, voilà, des choses positives, concrètes, que nous pouvons faire, chacun là où on est, auprès de sa municipalité. Puis comme on va changer de maire, eh bien c'est l'occasion de dire, on ne ferait pas des petites choses pour l'Europe ?
Voilà, exactement. Et le mouvement européen qui, évidemment... essaie de faire en sorte que l'Europe soit mieux perçu au plan local auprès des citoyens, a saisi l'occasion des élections municipales pour montrer que, précisément, l'Europe, ce n'est pas uniquement à Strasbourg ou à Bruxelles, c'est également au plan local. Alors on connaît évidemment tout ce qui se passe au niveau des jumelages de villes européennes. C'est un exemple de l'Europe en petit, en miniature, si l'on veut. Mais ceci étant, ils ont imaginé qu'on pouvait donner un label aux villes qui agiraient le mieux pour essayer de montrer quel est le rôle de l'Europe et qu'est-ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes au plan local pour rapprocher l'Europe des citoyens.
Alors, donc
il y a toute une série d'actions qui sont possibles. Et alors, il y aurait une récompense avec un jury indépendant. Et il serait donné aux villes les plus vertueuses sur ce plan-là un drapeau européen, deux drapeaux, etc., qui seraient mis jusqu'à 5 petits drapeaux européens qui seraient accolés, comme pour les villes fleuries. Et donc, ce seraient les villes qui agissent le mieux auprès des citoyens pour mieux faire connaître l'Europe ou directement travailler dans ce cadre-là européen.
Oui, parce qu'on parle des villes européennes de la culture, et je crois que ça, c'est très important de s'apercevoir que finalement, indépendamment des partis politiques, indépendamment de la vie politique, indépendamment des États, quand on circule en Europe, on s'aperçoit que culturellement, il y a tant de bâtiments qui se ressemblent, tant de racines communes à notre culture grecque et romaine. Il y a véritablement un monde européen existant dans la culture. Mais là, c'est intéressant parce que c'est très concret. Alors, moi, j'aimerais que vous donniez des exemples, puisque on peut...
Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités rubrique. D'action, dans le domaine des langues, l'information sur les langues, l'éducation, dans le cas même des jumelages, la mobilité, qu'est-ce qu'on fait auprès des citoyens. Il y a toute une série d'actions possibles qui sont mises en exemple et qui sont proposées par le mouvement européen et qui serviront de critères pour récompenser les villes. Alors, c'est une affaire évidemment à suivre et on verra dans quelques années, on pourra vérifier si
les progrès
il y a,
d'Europe ou bien s'il y a
les progrès, le nombre de petits drapeaux posés sur les panneaux de nos villes à l'entrée. C'est comme également le drapeau européen qui, malheureusement, ne figure pas toujours auprès du drapeau français, alors que c'est une obligation, notamment auprès des écoles et des bâtiments publics.
Oui, alors très concrètement, eh bien, on peut observer qu'il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, et que pour obtenir ce label, eh bien, il y a des choses qui sont quand même très, très faciles. Alors n'hésitez pas à pousser vos mairies à avoir
après
à
les
faire
municipales, il faudra pousser les mairies à agir dans ce sens et pour avoir ce label. Voilà.
Eh bien, notre émission s'achève. Je vous dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison. Quatre carreaux pour le ciel, une cheminée pour Noël. À gauche un pommier pour la tarte, à droite un voilier pour qu'on parte. Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison.